20h01 sur Radio G. Tout de suite, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. On est là aussi pour vous mettre en haleine avant ce très alléchant France-Espagne qui va se dérouler dans quelques minutes. Vous êtes déjà probablement devant votre poste de télévision, peut-être au bar avec des amis pour suivre cette rencontre très très importante pour l'équipe de France. Eh bien, on est ensemble sur Radio G pour évoquer donc cette rencontre. On vous fera un avant-match assez spécial donc en deuxième partie d'émission. Avant de vous présenter donc ce sommaire de cette émission du mardi 9 juillet 2024, je vais présenter ceux qui m'accompagnent. Effectif assez réduit ce soir. Florian n'est pas là, Mathéo n'est pas là et Clément n'est pas là non plus. Donc voilà, une émission, j'ai envie de dire, avec les titulaires de l'équipe 2022-2023. Cédric est à ma droite. Salut Cédric, comment ça va?
Salut tout le monde. Bah écoute, ça va super bien. T'aurais pu introduire avec une phrase culte du Tour de France. Chute à l'arrière du peloton.
Oui, chute. Beaucoup de forfaits, beaucoup de blessés ou de suspendus.
Ou de crevaisons.
Tu as raison. Donc voilà. Évidemment, on passe le bonjour à Mathéo, à Clément et à Florian qui nous écoutent très probablement. Faustin est également avec nous. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde. Bah ça va toujours très bien. Pas comme ma mention du bac, qui n'est que bien.
Bonne nouvelle ça déjà, c'est vrai, oui, il y a eu le résultat il n'y a pas longtemps.
Ouais,
donc mention bien.
Mention bien.
C'est pas mal ça.
Super, avec un magnifique 7 sur 20 en philo.
Ah ok, c'est passé quand même.
Ouais, mais bon.
J'ai eu la même mention, écoute, c'est vrai que toi t'as eu quelle mention bac?
Moi j'ai pas eu de mention.
Ok, c'est pas mal, t'as eu ton bac, c'est déjà...
Mais j'ai eu 10 en philo.
C'est pas mal. Je sais plus combien j'ai eu en philo, mais... Mais c'est vrai que c'est pas la matière la plus facile, quoi.
Non, je pensais avoir un peu réussi quand même.
Mais voilà, la grosse déception, quoi. Bon, écoute, ça arrive.
La philo, c'est toujours un petit peu la loterie. Hein.
Oui, ouais. J'ai l'impression aussi. Moi, je comprenais rien au cours de l'année. Je suis arrivé. J'ai tapé la moyenne, je crois, de mémoire. Mais franchement, j'y suis allé au talent et ça a marché. Donc bon, écoutez, pourquoi pas. Donc évidemment, félicitations à tous les bacheliers. Peut-être ceux qui nous écoutent. Félicitations à vous pour le bac. Au programme de cette émission, je le disais, en deuxième partie de l'émission, on vous fera un avant-match de France-Espagne. On évoquera notamment les compositions d'équipe. On essaiera de voir un petit peu les pronostics des chroniqueurs et de voir un petit peu quelle tactique on peut avoir sur ce match de ce soir. Dans un premier temps, on reviendra sur les actus locales et internationales. Alors local, il n'y a pas grand-chose, mais il y a 2-3 mouvements assez importants. Et puis on reviendra aussi sur les actus internationales. Avec, vous le savez, l'actu du mois de juillet, c'est Wimbledon, c'est le Tour de France. Il y a aussi un peu de F1, Cédric. Tu nous en parleras un petit peu. Et puis voilà, il y a pas mal de choses à dire aussi. On parlera un petit peu de rugby avec des mauvaises nouvelles, on va dire. Et Faustin, un petit peu de basket ou pas du tout?
Un petit point
basket.
Les 3 matchs de préparation.
C'est ça, de l'équipe de France qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Et puis en fin d'émission, alors on libérera ceux qui voudront aller voir le match à temps. Je vous présenterai un petit peu le dispositif qu'on va vous préparer pour les Olympiques de Paris 2024. Voilà, ça va être du très très lourd. On est très impatients de vous présenter ça. Ça va être vraiment bien. On va donc commencer par les actus locales. Avec le SCO, comme d'habitude, alors que le SCO d'Angers a officialisé notamment les arrivées de Jean-Eudes Aoulou, Karlens Arcus et Jim Alevina, les joueurs d'Alexandre Dujeu ont repris tranquillement le chemin de l'entraînement la semaine dernière. Les dirigeants angevins veulent également profiter du mercato pour tenter de conserver Yaya Fofana ou encore Imad Abdelli, qui est notamment pisté par Saint-Etienne. Du côté des la rumeur d'un retour d'Angelo Fulgini, potentiellement par le biais d'un prêt par Lens, a été initié par le média Foot Mercato il y a plus d'une semaine. Je voulais vous faire rebondir sur ce choix qui est assez intrigant. Il y a pas mal de choses à dire. Est-ce que vous pensez que ce serait un bon choix de revoir Angelo Fulgini sous le maillot angevin l'année prochaine?
Moi, ça me fait un peu penser au retour de Boufal. Ouais. Qui avait eu il y a 2 ans ou l'année dernière. Non, il y a 2 ans.
Il y a 2 ans.
Ouais.
2-3 ans même peut-être.
Ouais, voilà. Bah et pareil, un joueur, j'ai envie de dire, du même calibre, qui se ressemble un peu dans le jeu mine de rien, et qui pourrait carrément apporter un truc, qui a un peu d'expérience de la Ligue 1 aussi, du coup, sous les couleurs angevines en plus. Donc moi je pense que ça peut être cool.
Ok, Cédric, toi t'en penses quoi?
Je sais pas, c'est toujours compliqué de revenir comme ça.
Boufal, ça avait plutôt bien marché, ouais, pour le coup. Mais toi, ouais, sur Fulgini,
je sais pas, j'ai à voir en fait. Faut, dans ces cas-là, faut pas que ça coûte trop cher au club, quoi, j'ai envie de dire aussi.
Je pense que c'est pour ça qu'ils veulent un prêt plutôt qu'un achat.
Et puis, si c'est un prêt et que le prêt est intéressant en termes de voilà de contrat, pourquoi pas? Ça fera une valeur oui ajoutée sur l'expérience Ligue 1. Mais après, c'est savoir déjà de combien de temps va être le prêt.
Ouais.
Et est-ce qu'il faut pas continuer aussi à miser un peu sur la jeunesse qu'on a autour du club?
C'est vrai qu'on a
ou aller chercher peut-être des joueurs de Ligue 2 qui ont le potentiel de jouer en Ligue 1.
C'est ça.
Puis il y a surtout ces incertitudes qui jouent de toute façon sur le mercato, c'est les fameux droits de la Ligue 1.
Ouais, peut-être qu'on en reparlera dans d'autres émissions, mais c'est vrai que c'est très intéressant, c'est un sujet assez épineux parce que voilà.
Parce qu'on fait partie quand même des, je crois qu'il y a une dizaine de clubs.
Ouais, je crois qu'il y a 9 clubs qui sont potentiellement.
Voilà, qui sont potentiellement qui peuvent être
déposer le bilan. Dessous,
voilà, déposer le bilan. Donc, on sait que pour une fois, on a passé le contrôle
de l'NCG, contrairement à Bordeaux.
Ouais, Bordeaux, c'est encore un sujet. Comme tous les ans, hein, c'est le running guide, j'ai envie de dire, de l'été pour eux.
C'est ça.
Mais, non, avec cette incertitude-là, c'est pour ça, je pense qu'il va falloir mesurer, ces dépenses et se dire, cette malle d'argent, si on l'a, ce sera du plus. Et pourquoi pas, dans ce cas-là, peut-être réinvestir plus tard au mercato d'hiver. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, je pense qu'il faut rester, intelligent dans ses choix, c'est et ça. Peut-être pas trop mettre d'argent, aller chercher peut-être des petites perles.
C'est ça.
Au centre de formation.
D'ailleurs, en parlant de centre de formation, ça a été officialisé aujourd'hui, en tout cas annoncé par Ouest France, le petit frère de Jean-Mathéo Bahia, qui était également au club, qui va rejoindre son grand frère du côté de Francfort. On va parler maintenant d'un autre SCO, le SCO Handball. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. Vendredi, la Ligue Nationale de Handball a entériné la décision de maintenir le SCO Handball dans le championnat de Pro League, même en demeurant le plus petit budget de la deuxième division. Les Angevins resteront ambitieux dans l'optique d'un maintien sportif, puisque Christophe Maniable, président du club, a notamment assuré au Courrier de l'Ouest que l'effectif allait être plus approprié, selon ses termes, aux enjeux de la Pro League. Bonne nouvelle quand même pour le SCO Handball de se maintenir, ça permettra d'avoir du beau spectacle à la salle du Hara.
Oui, puis ne serait-ce que pour les finances du club, l'enveloppe est peut-être plus intéressante, même si tu te retrouves dernier du classement. Ouais. Et voilà, je pense que c'est intéressant. Voilà, ils ont l'air d'avoir un projet autour de ça pour essayer de rester. Mais je me dis en soi, même si ça doit échouer, t'as fait une saison de plus dans l'élite.
Ouais.
Tu prends de l'expérience. Je pense que tu peux faire un recrutement qui joue sur les deux tableaux, d'avoir des joueurs qui sont voilà au courant de la situation, qui seront pas forcément l'année suivante en haut, mais plutôt en dessous, et voilà de faire du travail sur la continuité pour essayer de pérenniser en cas de descente hélas sportive, de pouvoir continuer le travail l'année suivante.
Ouais, on rappelle que c'est clairement pas la première fois que le SCO Handball se maintient en Pro D2 ou en Pro League de cette manière. Les enjeux qui sont assez coutumiers du fait, grâce notamment donc à cette bonne gestion du club. La situation inverse s'est produite pour un autre club, c'est l'Étoile Angers Basket, puisque la LNB a littéralement proposé à l'Étoile Angers Basket de remonter en Pro B, et le club dirigé par Thierry Boisseau notamment a finalement décidé de rester en National 1 après sa relégation subie, hein. Vous vous souvenez, lors de la dernière journée de la saison passée, l'EAB veut, selon les dires de son président, se donner le temps de relancer un projet ambitieux. Faustin, est-ce que c'est toi, qu'est-ce que tu aurais, alors t'es pas à la tête du club, mais t'aurais préféré quelle option? Est-ce que c'est pour toi judicieux?
Ouais, ça me paraît cohérent au vu déjà des nombreux du mercato qui était bien avancé, et en plus si t'as pas mal d'espoirs qui sont déjà partis dans d'autres clubs, dont un qui est venu à Vrier d'ailleurs, pour parce que le club était descendu justement, donc s'il veut de la continuité, il va falloir retrouver ça, refaire venir des bons jeunes et retravailler là-dessus, et ça va pas se faire dès l'année prochaine. Donc ouais, faut du temps un peu pour reconstruire, surtout. J'ai vu dans Courrier de l'Ouest, ils ont dit aussi des problèmes d'infrastructure. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais s'il y a que Jean Boin comme bonne salle d'entraînement aussi, ça peut être problématique pour l'équipe.
Cédric, toi, t'en penses quoi?
Je me dis qu'on, ça revient, c'est pareil que ma logique que pour le SCO Hand. Je me dis qu'il y avait quand même une malle d'argent supplémentaire à récupérer. Moi, je me demande si ce club a réellement les finances bien solides depuis un moment quand même, avec pas mal de départs de joueurs importants vendus. Enfin, il y a ça qui met un petit peu le ouais. Et justement, je pense que faut être réaliste. Même si on était resté, ça aurait été à nouveau difficile de jouer le maintien. Mais justement, est-ce que c'était pas un argument supplémentaire pour faire venir des jeunes en disant? On sait que voilà, ça va être difficile, mais le challenge, c'est tu te fais la malle avec nous dans l'élite, et l'année d'après, tu redescends, mais t'es au courant, tu sais que voilà comment ça va se passer ton parcours. C'est, je sais pas, ça peut être un argument pour amener des joueurs, ça peut en convaincre aussi de rester pour l'expérience, et puis peut-être après sur des fins de carrière pour rester au club. Enfin, c'est, je sais pas, moi j'aurais. Si en termes de budget, ça coûtait pas plus.
Je pense que ça devait coûter un peu plus.
Je l'aurais tenté quand même, en sachant que voilà, ça, sans avoir forcément des grosses ambitions, mais au moins de jouer au maximum, de prendre un maximum d'expérience avec cette équipe-là, qui, je pense que l'équipe qu'ils sont en train de construire là, ça va être une équipe qui est construite au moins pour 2 ans. Ouais. Donc ça aurait pu faire première année, on prend dans l'élite. Deuxième année, avec ce qu'on a acquis, on essaye de remonter directement.
C'est peut-être pas ce qui était vendu aux joueurs qui sont venus justement.
Oui, non, mais après, c'est
parce
ça.
Parce que le mercato était déjà un peu fait.
C'est ça, il y a ça aussi.
Ils sont peut-être aussi adaptés à cette descente.
Ça, puis après, on sait pas encore réellement les ambitions, clairement, du club pour cette année. Donc.
On verra ça évidemment au cours de l'été, puis au cours de la saison qui débutera probablement en septembre. On va passer du côté international maintenant avec les différentes infos des derniers jours. On va commencer par le tennis avec le tournoi de Wimbledon, le troisième tournoi du Grand Chelem de la saison, donc qui a lieu en ce moment même du côté de Londres sur le mythique gazon de Wimbledon. L'occasion pour les Français de confirmer mais ou non les quelques bons résultats entrevus à Roland-Garros. Du côté des féminines, on ne peut pas parler d'un grand succès avec aucune tricolore engagée dans le troisième tour et seulement 3 ayant participé au second tour avec Caroline Garcia, Varvara Kravtcheva et l'ancienne joueuse de l'Angers Tennis Club, Clara Burel. Chez les hommes, le bilan est plus reluisant avec 6 Français au troisième tour. Le numéro 1 d'entre eux, Hugo Humbert, a d'ailleurs rallié les huitièmes de finale, qui s'est fait ensuite donc sortir par Carlos Alcaraz. Huitième de finale également pour deux jeunes espoirs du tennis français avec Arthur Fils et Giovanni Empeci Pericard, battus respectivement par Alex de Minaur et Lorenzo Musetti. Donc des bons résultats pour les joueurs français du côté de Wimbledon. On va passer
prochain tour qui va être quand même explosif. Hein.
Prochain tour.
Oui.
Ça va être tendu. Bah forcément c'est les quarts de finale donc on rentre dans.
Ouais mais
dans le dur de la compétition.
Voilà quand même une belle affiche. Alcaraz contre Medvedev à nouveau.
Contre Medvedev.
Ouais.
Ouais Medvedev qui s'est qualifié effectivement aujourd'hui. Il a battu notamment Yannick Sinner hein, qui est numéro 1 mondial et Carlos Alcaraz qui s'est effectivement également qualifié aujourd'hui devant l'Américain Paul. On va passer maintenant au Tour de France, le cyclisme. On va donc vous présenter un petit peu ce qui s'est passé. Je crois que vous n'avez pas eu le temps la semaine dernière de revenir là-dessus. C'est Wimbledon que vous avez zappé.
Ouais, Wimbledon, on l'a pas évoqué. On a parlé un petit peu du Tour de France
et des
premières étapes, surtout en Italie. Ouais.
Je rappelle pour nos auditeurs, ceux qui veulent interagir dans le chat et parler avec nous, vous êtes les bienvenus hein, pour agir sur les différentes actualités et puis surtout sur France-Espagne après vous pourrez nous donner vos pronostics. On va donc parler du Tour de France, les coureurs du Tour qui ont rejoint le territoire français après les 3 premiers jours en Italie. Alors depuis la dernière émission, Tadej Pogacar a toujours son maillot jaune sur les épaules avec près de 33 secondes d'avance sur son dauphin Remco Evenepoel qui avait d'ailleurs remporté le contre-la-montre de vendredi dernier. Le tenant en titre Jonas Vingegaard est à 1 minute 15 du leader tandis que le compatriote de Pogacar Primoz Roglic est au pied du podium. Samedi, Binyam Girmay, l'Érythréen, a signé un doublé lors de l'étape qui se terminait au sprint à Conlobay-les-Deux-Églises. Dimanche, Anthony Turgis de l'équipe Total Energy a succédé à Romain Bardet et Kevin Vauclin en signant la 3e victoire d'étape française de ce Tour de France 2024. Et aujourd'hui, c'était une étape de sprint, une étape ennuyante, c'est peu de le dire. Pardon. Aucune échappée, pas de bordure également qui était notamment prévue. Et c'est donc un sprint massif qui a eu lieu aux alentours de 18h. Et c'est Jasper Philipsen qui a signé sa première victoire sur le Tour. Lui qui la visait depuis assez longtemps, depuis le lancement de ce Tour 2024. Et nous avons donc cette première victoire pour le coureur de Alpecin qui signe cette première victoire. Le Tour de France, les gars, vous, est-ce que vous suivez un petit peu Pogacar est dans un fauteuil pour gagner.
Ouais, comme assez souvent. Enfin, non, pas du tout. Mais
depuis 3 ans, si, on peut le dire.
L'année dernière, non.
Bah non, les 2 dernières années, c'est Vingegaard qui a gagné, on rappelle. Hein.
Ouais, ça. Mais c'est quand même les mêmes qu'on voit à chaque fois là depuis ces dernières années. Et c'est pas étonnant parce qu'il roule sur tout le monde et c'est sûrement ce qui va continuer dans les prochaines étapes. S'ils veulent gagner une étape, j'ai l'impression qu'ils gagnent quand ils veulent, quoi.
Bah, c'est devenu du cyclisme de verrouillage, hein. C'est à partir du moment où l'équipe, elle est devant. C'est quasiment impossible de sortir. Enfin, je sais pas si c'est ça l'évolution du cyclisme. En tout cas, c'est moins intéressant qu'à une époque, je trouve.
C'est plus stratégique.
C'est, ouais, mais ça perd un peu de son charme.
Tu penses, tu trouves?
Ouais. Je trouve, le côté vraiment stratégique, on boucle tout. C'est dommage quand on se retrouve.
La course entre les deux, elle est pas. Tu la trouves pas intéressante entre Vingegaard et Pogacar?
Ah, pour moi, c'est quasiment fini. Hein. Même s'il y a 33.
Déjà.
Hormis une.
Il y a 1 minute 15 même.
1 minute 15 maintenant,
c'est
ouais.
C'est 33 avec le deuxième qui est Evenepoel.
Ouais, tu vois, enfin, pour moi, ils vont verrouiller, ils vont l'emmener tranquillement, j'allais dire, jusqu'à Paris, mais cette année, c'est jusqu'à Nice. Ouais.
Je crois que c'était l'année dernière où t'as eu une étape de montagne où justement t'avais Vingegaard Pogacar qui s'accrochait et d'un coup t'as Vingegaard qui a mis l'accélérateur qui lui a remis une minute alors que c'était Pogacar mais jaune. Tu vois, ça, moi je trouve que ça peut être un scénario encore viable.
J'ai pas l'impression qu'il y aura un scénario comme ça cette année.
Bon, on verra ça. Évidemment, on n'a pas fini de vibrer sur ce Tour de France. On va parler de Formule 1 maintenant avec d'autres coureurs, et oui, mais avec des moteurs. À l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, les Britanniques ont notamment brillé sur le circuit de Silverstone. Samedi, triplé anglais sur les qualifications avec George Russell en tête devant ses compatriotes Lewis Hamilton et Lando Norris. Le lendemain, c'est le multiple champion du monde Hamilton qui s'est imposé pour la première fois sur un Grand Prix depuis décembre 2021. Ça, j'ai découvert ça en préparant l'émission. Ça faisait 2 ans et demi qu'il n'avait pas remporté de Grand Prix. Ça faisait assez longtemps pour Hamilton. Alors, le leader du classement des pilotes, Max Verstappen, ainsi que Lando Norris de chez McLaren, complète le podium. C'est vrai, est-ce que c'était t'as pu jeter un œil à ce Grand Prix ou pas du tout?
Ouais, bah merci la pluie. Parce que ça a complètement changé la course. C'est ce qui permet à Hamilton de faire la course qu'il a fait. McLaren qui se rate dans la stratégie des arrêts. Là où Mercedes a été plus malin, ils ont fait rentrer les deux voitures. Eux, ils ont fait le choix de faire rentrer une seule. Ça a bien marché pour Norris, mais du coup, c'est Piastri qui s'est retrouvé après bloqué donc dans le peloton. Donc c'est un peu dommage, il a gâché un peu sa course. Lewis qui gagne... mais voilà, c'est dommage que de l'autre côté, l'autre voiture, l'autre Mercedes, elle doit abandonner pour des problèmes mécaniques. Donc ça a un petit peu tronqué les différentes batailles. Et clairement, il y a eu quelques tours de plus. Je pense que Verstappen repassait devant. Hein, il remontait fort en fin de course. Dommage pour Norris qui a fait quand même un bon week-end, je trouve, dans la continuité de sa saison là depuis quelques grands prix. On voit que les McLaren, ça revient vraiment, l'écurie en forme, c'est la deuxième puissance, j'ai envie de dire, du plateau, hein, clairement. Et puis du côté des Red Bull, c'est le jour et la nuit entre Verstappen qui est devant, qui arrive à sortir une qualification avec une voiture abîmée, avec un fond plat abîmé, et qui arrive après avoir fait quelques réparations dessus à faire une très bonne course. Et puis Perez qui est complètement à l'abandon. Enfin, moi j'ai ma petite théorie là-dessus. Je me demande s'il n'y a pas finalement deux voitures, une voiture vraiment développée pour Max qui est la plus performante, et puis Perez qui fait avec la voiture qu'on lui donne, quoi.
Très bien, merci Cyril de ton analyse sur la Formule 1. On va enchaîner avec le rugby, alors que le 15 de France s'apprêtait à disputer quelques test matchs en Amérique du Sud. Le rassemblement a vite tourné au cauchemar après le match de samedi face à l'Argentine. Après avoir gagné 28-13 face aux Pumas, 3 joueurs du groupe tricolore se sont distingués de la pire des manières. Samedi soir, dans une vidéo publiée dans sa story et dévoilée notamment le dimanche par le débuté Sébastien Delogu, Melvin Jaminet a tenu des propos racistes qui lui ont notamment valu son exclusion du groupe. Alors je ne relayerai pas évidemment ces propos qui sont condamnables. Et en plus de ce cas très très épineux, cette nuit, l'équipe a révélé que 2 joueurs du 15 de France étaient visés par une plainte pour agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés donc juste après le match face à l'Argentine, et donc la plainte proviendrait donc d'une Argentine. Et les 2 joueurs en question, hein, les 2 rugbyman, c'est Hugo Oradou et Oscar Jegou, qui connaissaient d'ailleurs les 2 leur première sélection lors de cet été. Alors je crois qu'ils jouent à Pau et à La Rochelle.
À La Rochelle, oui.
C'est vrai que c'est assez particulier parce que là on a 2 cas qui sont très condamnables.
Il y en a un qui est bon du coup avéré, ça c'est sûr, puisqu'on a,
oui,
on a la vidéo.
La vidéo, la preuve.
Son club avait déjà réagi de façon à ça, donc, ouais. Avant que la Fédé aussi, comme il dit, la Fédé espérait plutôt parler des résultats que de devoir se communiquer là-dessus. La fédération a réagi, voilà, donc en l'écartant immédiatement du groupe. C'est ça. Pour l'autre cas, il faut mettre pour l'instant des grands bémols, j'ai envie de dire, parce que on sait qu'en Argentine aussi, il y a une pratique, c'est justement de piéger des gens comme ça, avec des scandales dits sexuels, pour derrière récupérer de l'argent. Donc, à voir réellement comment va se dérouler la suite de cette enquête. Quoi.
Je dois quand même... Ah oui, non, pardon. Si, c'est bien ça. Je pensais faire un erratum, mais finalement, ce n'est pas ça. Mais voilà, en gros, c'était une déclaration du sélectionneur des Bleuets qui disait que... parce qu'en fait, ce sont des joueurs qui sont issus donc du groupe U20 qui dispute actuellement la Coupe du Monde. Et donc, voilà, il a ce sélectionneur, donc Sébastien Calvet, a notamment... dit que les joueurs sont des adultes responsables de leurs actes. Donc voilà, mais ça reste quand même une affaire évidemment très compliquée à gérer, quoi qu'on en dise, Cédric, parce que voilà, nous du côté de la France, on voit simplement deux joueurs qui sont accusés d'agression sexuelle et ça reste quand même grave.
Alors, il y a eu des, enfin, ils ont pu communiquer un peu avec leur famille, au moins pour.
C'est ça, ils ont déjà fait une garde à vue.
Oui, oui.
Il y a eu un mandat d'arrêt national et international pour s'assurer que les joueurs, les joueurs ne quittent pas le territoire.
En Argentine, en fait, ce qui se passe niveau arrestation comme ça, en fait, pour éviter qu'il y ait des fuites vers l'étranger, on reste emprisonné dans le lieu où ça, enfin, dans la région ou la ville où ça s'est passé. Donc c'est pour ça que ça, ils peuvent. Pour l'instant, pas forcément communiquer avec l'extérieur aussi. Et eux, ce qu'ils ont déclaré auprès de leur famille, c'est que effectivement, il y a bien eu relation. Ça, ils l'ont avoué.
Ouais.
Et pour eux, elle était consentante. Donc voilà, c'est pour ça, faut laisser comme... la justice pour l'instant
faire son enquête. Travail,
c'est ça.
La police a notamment relevé quand même des blessures sur la victime et avec beaucoup de détails sur la soirée lors de la déposition. Bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais ça reste quand même une affaire quand même assez grave.
Disons que ça fait beaucoup d'un coup pour un rassemblement.
Et ils ont
en
été, je crois qu'ils ont été également écartés du groupe, ce qui aussi est plutôt logique
en attendant la décision. Ils peuvent pas se déplacer. Librement dans le pays, ils voilà. sont vraiment.
Parce qu'on rappelle que l'équipe de France a un match à jouer contre l'Uruguay. Il me semble que c'est vendredi, c'est ça, Cédric ?
Je sais plus si c'est vendredi ou samedi.
Eh bien, ça doit être. On verra ça.
Avant de rejouer un dernier match, enfin le troisième match test contre l'Argentine.
Je me demande pas si c'est demain. Il y a un troisième match test donc contre l'Argentine. Ouais. Eh ben, c'est demain, c'est ça.
C'est
demain à 19h. Voilà, diffusé d'ailleurs en clair par la chaîne de l'équipe. Faustin. On va passer à toi sur des nouvelles un peu plus réjouissantes d'une équipe de France un peu plus réjouissante avec des joueurs un peu plus intègres. On ne sait pas encore.
A priori.
Hein, a priori. Le basket avec l'équipe de France qui prépare les Jeux Olympiques de Paris 2024. Peut-être aussi, on pourra évoquer après, dans un second temps, la fameuse Dream Team qui a été officialisée des États-Unis. On en parlera peut-être après. Dans un premier temps, donc, quels ont été les résultats pour cette match de préparation des Bleus.
On a démarré contre la Turquie sur un gros score 96-46. La Turquie, pourtant, ils sont pas si mauvais au basket. Mais
on a Wembanyama. Voilà,
avec Victor Wembanyama, ils shootent à 1 sur 19, les Turcs. Donc, notre arme de destruction massive, j'ai envie de dire, Victor Wembanyama a fait son travail avec ses 24 points et un match facile pour l'équipe de France. Après, on s'est déplacé en Allemagne, les champions du monde en titre, je le rappelle, à qui on a mis 24 points une fois de plus, voilà, une large victoire avec un Victor Wembanyama qui en met 27. Mais on a vu aussi un très mauvais geste de Evan Fournier sur Dennis Schröder.
C'est vrai.
Pour un match amical, c'est dommage de faire ça, mais on sait que Dennis Schröder, il aime beaucoup trop parler sur un terrain de basket.
Il est à la Boca, comme disent les
gens. Exactement, c'est exactement ça. Et on l'a vu aussi au deuxième match, du coup, qui jouait à Montpellier, où cette fois Victor Wembanyama n'était pas là parce qu'il était malade. À voir si c'est vraiment une maladie, si c'est pas une petite blessure cachée pour pas nous inquiéter, mais à mon avis, il devrait revenir prochainement. Cette fois-ci, c'était plus compliqué du coup pour les Bleus qui ont perdu de 5 points. Ils gagnaient plutôt largement dans le premier quart-temps et au milieu du deuxième, c'était un peu la descente aux enfers. Il y a eu égalité à la moitié du temps, à la mi-temps, et on a laissé surtout beaucoup passer trop de lancers francs, avec notamment Mathias Le Sor qui fait un sur 7 sur la ligne. Ça me coûte le match, j'ai envie de dire.
Ouais. Je vais poser une question que j'aime pas, enfin qui est pas une bonne question je trouve d'habitude, mais est-ce que du coup vu des deux résultats qu'on a vus,
qu'ils sont favoris?
Non, est-ce qu'il y a pas une Wembanyama dépendance?
Ah,
c'est une question à la con, mais je la pose quand même parce que factuellement ils ont perdu leur seul match quand Wembanyama n'était pas là et ça s'est très 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 bien passé quand il était là.
Bah ouais, clairement c'est.
Donc est-ce qu'il y a Jassar qui est en tête?
Ouais, je pense un peu, hein, parce que tu le vois, il est partout, il peut tout faire.
Oui, ça.
Et enfin, justement, la stat contre la Turquie, quand il est sur le terrain, il shoot à 1 sur 19. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, surtout s'il est accompagné d'Audi Gobert, t'as personne qui passe dans la raquette, quoi. Donc, alors que si t'as une paire Mathias Le Sor, Audi Gobert, c'est déjà un peu plus passable. Et ça défend beaucoup moins bien aussi à l'extérieur. Et du coup, ouais, je pense que malheureusement, on a peut-être une petite Wembanyama dépendance qui commence à arriver.
Bah oui.
C'est léger encore, je veux dire, mais je pense que Vincent Collet va faire en sorte que pas de remédier à ça pour pas que ça arrive.
Et de protéger son diamant.
Voilà.
Sur la défaite, du coup, est-ce que l'équipe de départ c'était exactement la même ou
comment ça?
Est-ce qu'ils ont changé plus de joueurs aussi pour tester ou?
Non, bah il a son groupe de 12.
Il avait repris le même groupe.
Ouais, du coup c'était 11, quand il n'y a pas Victor. Mais ouais, c'est le groupe qui va envoyer au JO où il avait fait justement, avant c'était un groupe de 16. Et du coup t'as 4 joueurs qui ont été écartés. T'as Nadir Ifi. Oh, je vais pas tous les faire parce que.
Donc ouais, non,
mais il y en a beaucoup.
Ah, il y en avait 4. Bon, c'est pas.
Il y avait Okobo si je.
Ouais, il y a Okobo, Jalen Nord et.
Bon, c'est pas grave, c'était pas quatrième.
J'ai plus quatrième. Je sais que c'est un meneur, je sais plus c'est qui.
Non, parce que ça aurait pu expliquer justement.
Théomaldon, oui.
Okay. C'est,
qui joue à NBA.
Cette défaite.
Ouais. Voilà pour l'équipe de France. Et pour l'équipe des États-Unis, ils reforment une Dream Team.
Oui.
Ça veut dire, au moment où on a notre meilleure équipe de France, ils ramènent les Avengers. Est-ce que tu peux nous citer un petit peu, là, de tête, les gros noms qu'il y aura à Paris 2024?
On aura du LeBron James, du Stephen Curry, du Kevin Durant, du Jason Tatum, du Anthony Davis, Anthony Edwards.
C'est très fort.
Tous les gros cadets de la NBA, en tout, t'as 12 joueurs et t'as 16 bagues de champion NBA, quoi. C'est
exceptionnel.
Voilà. Est-ce qu'il y a finalement le mercenaire de nationalité qui est présent?
Ah
dans
oui, il y a Joel Embiid aussi, qui est présent, ouais, qui joue.
Aïe, aïe, aïe. Un traître à la nation. Non, je rigole, pardon. Je pense qu'on fera ça, on aura le temps de voir ça, mais ça peut être bien de faire une petite preview juste avant les JO des sports co en France. Je pense que ça peut être très intéressant, notamment juste avant les jeux qui commenceront le 26 juillet et le 24 notamment pour le football.
Il y a le groupe féminin aussi qui a été
c'est ça, donc validé aussi. On en parlera un petit peu à ce moment-là. Mais oui, effectivement, il y a l'ancienne Angevine qui est bien présente dans le groupe de Jean-Aimé Toupane. Voilà pour les actus internationales. Je vais également donner la parole à Mathéo qui est dans le chat, qui dit que qui veut parler donc notamment du GP, énorme Grand Prix des McLaren et magnifique pour Hamilton, la 9e victoire à domicile. Et puis sur le rugby, l'image du rugby en prend un coup énorme selon la presse. Les preuves sont assez accablantes, assez dégoûtantes comme affaire. Voilà pour Mathéo. N'hésite pas à revenir dans le chat hein, pour parler de football. Et et surtout, tous les auditeurs, vous êtes conviés à venir sur le chat de Radio G, aller sur le site www.radio-g.fr et puis derrière, vous interagissez avec nous sur ce qu'on peut dire à l'antenne. On va passer à la pause musicale. Alors, j'aurais pu mettre une certaine musique des berruriers noirs en vue de l'actualité, mais je vais passer sur un truc un peu plus soft, on va dire, avec Aurel San et son titre L'odeur de l'essence, et on va se retrouver juste après.
leur faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé.
L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réac, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votes, ils vont choisir.
C'était Aurel San sur Radio G avec son titre L'odeur de l'essence. Vous êtes toujours en compagnie de l'équipe de Génération Sport pour évoquer désormais la demi-finale, pardon.
On peut en reparler, hein,
évidemment. La demi-finale entre la France et l'Espagne qui va débuter dans maintenant 20 minutes. On va faire cet avant-match ensemble. N'hésitez pas donc à réagir sur le chat sur www.radio-g.fr ou bien vous nous écoutez peut-être aussi depuis les plateformes d'App Plus ou encore sur le soin.5fm. Je vais vous donner pour débuter, pour vous mettre en haleine, l'eau à la bouche, les compositions d'équipe de ce France-Espagne. On va commencer par la France. Et oui, avec dans les buts du classique Maignan, la défense Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, c'est également du classique et c'est surtout un mur. C'est très solide. Ensuite, au milieu de terrain, petite originalité, on va dire, puisque Antoine Griezmann n'est pas titulaire, c'est l'information donc de la soirée. N'Golo Kanté, Tchouaméni et Rabiot seront bien titulaires au milieu de terrain. Et l'attaque, c'est notamment Colomoigny qui a été encore une fois privilégié par rapport à Marcus Thuram ou encore Bradley Barcola. Dembélé sera sur le côté droit et évidemment le Kicks. Kylian Mbappé sur le côté gauche. Du côté de l'Espagne, c'est du classique, même si il y a pas mal d'absences dues à des blessures ou bien dues à des suspensions. Je pense notamment à la défense avec Jesús Navas qui remplace Carvajal, Nacho qui remplace le Normand, Laporte toujours titulaire, Cucurella aussi, dans les buts Unai Simón. Au milieu de terrain, Fabián Ruiz est titulaire également avec Rodri, pas de Pedri qui est blessé. Et sur l'attaque, on aura un quatuor offensif composé de Lamine Yamal, Dani Olmo et Nico Williams, accompagné de Morata. Est-ce qu'on voulait un petit peu peut-être revenir sur ce quart de finale? Est-ce que sur ce match-là, qu'on n'a pas eu le temps donc de débriefer encore dans l'émission, est-ce que vous avez alors c'est un peu ennuyeux, on va pas se mentir, pendant ce match il y a eu 20 bonnes minutes.
J'ai envie de dire c'était un peu mieux, mais c'est pas ça.
Ma question c'est celle-ci, est-ce qu'il y a quel genre de satisfaction vous ressortez de ce quart de finale? Est-ce qu'il y a des choses à en tirer, évidemment sur vos défensifs? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez vues qui vous ont intéressé?
En fait, c'est, tu te rends compte que ils ont décidé de jouer. Alors, attention, de jouer, c'est un bien grand mot au vu du match. Mais j'ai senti qu'il y avait un peu plus d'envie, mais parce que c'était l'ennemi. Et puis parce qu'en face, c'était le Portugal.
Ouais.
Ça aurait été une autre équipe que le Portugal. Je sais pas si on n'aurait pas eu le même schéma qui se reproduisait que les autres matchs. Hein. Là, j'ai trouvé quand même qu'il y a eu un peu plus de pêche, un peu plus de tentatives. J'ai pas les stats en tête, mais en tout cas, je sentais qu'il y avait un petit peu plus, mais c'est retombé très vite après en seconde mi-temps.
Faut se tenter d'accord ou pas?
Ouais, et puis
par rapport à la Belgique, peut-être, c'est vrai que tu disais.
Ouais, bah, par rapport à la Belgique, de toute façon, la Belgique, tu te demandes si les deux équipes.
J'avais raté ce match et j'ai l'impression que nous n'avons rien raté, puisqu'on m'en dit.
Ouais, t'as bien raison. Mais moi je trouve surtout faut cadrer un jour quoi. C'est le nombre de frappes qui partent au-dessus à côté, c'est affolant quoi. On met pas une frappe dans le but. C'est Tchouaméni surtout qui marque, qui entende pas mal à l'extérieur de la surface. Il s'est entraîné avec Valverde au Real pour faire des bonnes frappes. Et ben faut croire que ça a pas encore tout à fait ses fruits. Mais un jour si on cadre, on va en mettre, c'est sûr. Et c'est juste ça, faut s'appliquer un peu devant le but et ça va le faire.
Ouais, il faut. Je pense, moi de mon côté, je pense qu'il faudrait se créer quand même beaucoup plus d'occasions. Je trouve que le volume d'occasions n'est pas assez fort. Et quand on a des individualités offensives qui sont en berne, pour moi, il y a clairement un souci. Il faut continuer à attaquer jusqu'à se mettre ce but. Maintenant, c'est vrai qu'on a un équilibre défensif qui est assez impressionnant. On a une solidité incroyable. On a un Meignan qui est très fort. Saliba qui sort un tournoi exceptionnel. Koundé également. Mais bon, voilà, on a peut-être sur le volet offensif beaucoup encore de difficultés, et on espère à chaque fois que ça va aller. On rappelle que l'équipe de France n'a marqué que 3 buts en 5 matchs depuis le début de la compétition, dont 2 contre son camp et un penalty. Donc ça reste un peu alarmant.
Aucun
en tout cas sur
but dans le jeu, quoi. C'est...
Mais on a pris effectivement, par contre, un but,
sur un penalty retiré.
C'est ça, oui. Et donc c'est pour dire à quel point il faut les éléments contre nous pour qu'on prenne un but. Ce sera peut-être différent, évidemment, ce soir avec la proposition espagnole. Justement, on va se projeter sur cette demi-finale. Au vu des 11, des choix de Deschamps, donc Griezmann sur le banc, Colomani privilégié, Dembélé qui d'ailleurs réintègre le 11. Hein. Est-ce que ça vous va? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir sur cette partie-là?
Moi, ça me plaît. Parce que l'Espagne, contrairement aux autres équipes qu'on a rencontrées pour l'instant, vont beaucoup plus jouer en attaque, vont beaucoup plus se livrer. Et du coup, en ayant un Dembélé, un Kylian Mbappé et même un Colomani, on pourra plus facilement balancer des ballons devant pour des grandes courses, prendre la profondeur, ce genre de choses, pour apporter plus d'occasions en contre-attaque notamment, ce qu'on n'a pas trop vu depuis le début, parce que en général, on n'a pas tellement la balle. Et du coup, on a plus de mal à se projeter. Les équipes ont peur de nous aussi. Avant, j'avais l'impression. Et l'Espagne n'aura pas peur de nous. L'Espagne va jouer son jeu, va nous forcer à faire des erreurs défensives. Et c'est peut-être ça qui va aussi nous permettre de récupérer des ballons qu'on pourra balancer devant pour les marquer.
Cédric, l'absence de Griezmann, qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, c'est pas mérité?
Bah, disons qu'on, enfin, on se passe d'un joueur qui connaît bien le style espagnol quand même. Il connaît pas.
Bah, il a grandi là-bas.
Puis, enfin, voilà.
Footballistiquement, en tout cas, ouais.
C'est ça, mais je trouve ça un peu dommage de s'en priver dès le début du match. J'arrive pas à comprendre Deschamps là-dessus. Il est pas plus mauvais qu'un autre. Il fait pas un meilleur euro que les autres non plus. Donc, Je sais pas, c'est...
Il est quand même beaucoup en deçà de, par rapport à ses performances.
Il est en deçà, mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire, il y en a d'autres aussi qui sont en deçà et qui sont titulaires, tu vois. Donc c'est compliqué. Pour moi, je pense qu'on aurait dû le mettre d'entrée de jeu quand même.
Ouais.
Et justement, garder peut-être cette cartouche-là pour la fin du match. Et j'espère qu'il va refaire entrer Barcola avant les prolongations.
Ouais, la dernière fois, ça a bien marché.
Voilà, parce qu'il est... Là, il est dans le rôle. Enfin, moi, que j'apprécie, c'est voilà, c'est ce que j'aime bien dire, le petit feu follet qui peut partir à droite, à gauche, et quand en face on a une défense qui est fatiguée pendant 80 minutes de match, il peut trouver ce petit étincelle et puis y aller.
Et pourquoi pas nous faire une Ribéry 2006
c'est ça,
et mettre son premier but en équipe de France lors d'un match à élimination directe.
J'ai bien aimé ça. Son entrée justement contre le Portugal dans ce rôle-là, même si au début j'étais un peu en mode ouais, je suis pas sûr, mais
donc voilà un peu pour l'absence notamment de Antoine Griezmann. Sur l'Espagne, est-ce que pour vous, avant de donner vos pronostics, est-ce que finalement au début du tournoi l'équipe de France était favorite, et je pense devant l'Espagne, on en parlait peu, et est-ce qu'aujourd'hui à 13 minutes du coup d'envoi, est-ce qu'on n'est plus favori pour ce match?
Dans les mentalités des gens, pas que
selon
en
vous,
France.
Moi je parle selon vous.
Selon moi, ouais, clairement on n'est plus favori. C'est l'Espagne qui a complètement prouvé que c'était eux les maîtres de la compétition, alors que nous pas du tout. On met zéro but dans le jeu, on n'a rien prouvé encore. J'ai envie de dire à part en défense où du coup on montre qu'on est des monstres, mais offensivement on montre pas grand chose. Et contrairement à l'Espagne qui a gagné tous ses matchs depuis le début, du coup c'est la seule équipe qui a prouvé beaucoup de choses et qui sont à mon sens favoris pour ce soir.
C'est vrai que toi, qui est ton favori? Enfin, ton favori. Enfin, comment dire?
Bah,
je vais m'exprimer. Je donne pas ton prono, mais objectivement, celui qui part favori.
Au vu de l'ensemble de la compétition, c'est clair que l'Espagne est largement au-dessus. Hein.
Oui, voilà.
Quand t'as toute ta ligne qui est de résultat qui est au vert, j'ai envie de dire ce soir, il y a aucune chose sur le papier en tout cas qui peut les empêcher de gagner et potentiellement de gagner cet euro. Hein. Parce que en face, ce sera soit les Pays-Bas ou l'Angleterre.
Ouais, c'est pas meilleur que l'Espagne.
Ça n'a pas été exceptionnel, voilà. Donc,
c'est les favoris d'ailleurs pour finir.
En tout cas, enfin voilà, s'ils gagnent ce soir, je pense que oui, là ils ont une voix royale pour le titre.
Bah, je vais vous demander vos pronostics, messieurs. Ça y est, c'est le moment. Faut se mouiller. C'est dans 12 minutes. Faustin, allez, un pronostic.
Allez, celui que j'ai mis sur mon petit prono.
Ok.
Il me semble que c'est.
D'ailleurs, est-ce que j'ai fait moi? D'ailleurs, je vous ferai un point, chers auditeurs, sur le classement.
Non, on est...
si c'est vrai, on va le faire.
On évitera qu'on s'est fait avoir sur plein de matchs à la dernière minute.
Faustin, ton pronostic.
Un 2-1 pour la France.
2-1 pour la France. Cédric.
Bah, je suis parti sur le même score, hein, avec une cote à 110 points. Hein, on prend, quoi.
2-1 pour la France. Je vais passer du coup pour quelqu'un d'horrible. J'ai mis 2-0 pour l'Espagne. Et la même stratégie que j'ai fait pareil pour le Portugal. Soit on gagne et c'est trop bien, soit on perd. Et j'ai quand même, je peux me consoler avec un petit prono. Voilà. Donc,
c'est 98 points. Il n'y a pas un gros écart par rapport à l'équipe de France.
J'avais quand même misé, je tenais à le dire, la Géorgie contre l'Espagne. 1-0, et donc pendant quelques minutes, j'ai eu 208 points provisoires, et puis après, c'est bon, il y a eu 4-1.
Moi, j'avais pronostiqué le 4-1, je l'avais mis.
Ah ouais, c'est vrai?
J'ai pris 70 points de
pas mal.
Exact.
Pas mal, pas mal. Bon, Faustin, je vais te libérer. Je sais pas, Cédric, toi, si t'as aussi, t'as envie de partir ou tu veux rester là.
Ça va, j'ai pas loin pour aller voir le match.
Bah, ça va aller, tu vas rester avec moi. Bah, justement, je veux parler un petit peu du classement, mon petit prono. Vous en faites très probablement avec vos amis, chers auditeurs, puisqu'il y a quand même, je crois, plus de 2 millions d'inscrits, hein, c'est quand même pas mal. On fait notre petite ligue, hein, sur mon petit prono, et on va donner, puisque ça ne devrait pas bouger, peut-être dans le bas du classement. puisqu'il reste 3 matchs seulement. À la 6e place, effectivement, on sait pourquoi tu ne voulais pas qu'on dévoile les résultats, Cédric. Tu es actuellement dernier. Bon, manque de réussite.
Ouais, je t'ai remonté jusqu'à la 5e.
Mais pour le coup, ton favori pour la victoire finale est toujours en lice puisque tu as mis la France. Florian, il est 5e, qui a mis l'Italie et qui, du coup, ne pourra pas empêcher le petit bonus. Pareil, je pourrais, moi qui suis 4e, je ne pourrais pas toucher le bonus puisque j'avais mis l'Allemagne. Et puis, le podium. Il est encore avec nous, encore dans les studios, c'est Faustin.
J'y crois encore.
Il y croit encore. Donc 3e, juste derrière Clément et Mathéo. Je salue Faustin qui s'en va, qui quitte les studios. Salut à toi Faustin, bon match à toi. Allez, et puis donc 2e Clément, plutôt pas mal. Et on retrouve Mathéo à la première place qui est exceptionnel avec quand même 27 bons pronos.
On a peut-être enfin un chroniqueur qui sait faire des pronostics.
C'est ça, c'est la meilleure recrue, c'est la meilleure recrue qu'on pouvait espérer. Je sais pas s'il est toujours dans le chat avec nous. Non, il a dû partir. Voilà. C'est vrai que peut-être petite question aussi, on va rester sur les pronostics, bon, tant qu'à faire. Vu que t'es un expert. sur l'autre demi-finale, tu sens plus l'Angleterre ou les PA? L'Angleterre qui a eu beaucoup de mal. Moi, je les voyais clairement sorti contre la Suisse, finalement.
Ouais, moi, j'avais misé sur la victoire de la Suisse.
Et du coup, sur cette demi-finale face aux Pays-Bas qui ont un parcours plutôt facile, avec la Roumanie, la Turquie, et puis surtout, ils sont terminés 3e du groupe de la France. Est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois sur cette demi-finale?
Je sais pas. Franchement, c'est deux équipes que j'ai pas forcément aimé regarder. J'ai pas trouvé ça.
Ah oui, non, c'est clair.
Super intéressant. Donc j'ai un petit peu peur quand même pour la finale. Franchement, moi demain en termes de pronostic, je pense que je vais partir sur un match nul.
Ok.
Pour je pense que ça va se finir
au tir au but.
Au tir au but, ouais.
Très bien. Et victoire de au tir au but.
Ah, peut-être les Anglais, mais encore, je sais pas.
Ok, très bien. J'avoue que moi, je sais pas trop. En fait, c'est le moins pire. En fait, c'est ça. Je dirais que
le problème des Anglais, je pense qu'ils doivent.
Mais c'est très jeu, les Anglais. C'est comme nous. Hein.
Ouais, mais puis ils ont surtout cette pression d'aller chercher un titre.
Oui, c'est
plus que les Pays-Bas. En fait, au final.
Ouais, les Pays-Bas qui n'étaient pas forcément peut-être attendus à ce niveau-là de la compétition. Bon, voilà pour le football. Hein. On vous rappelle le match qui va commencer dans 7 minutes maintenant. La semaine prochaine, on reviendra probablement hein, sur le tournoi de l'Euro qui sera achevé. Hein. Voilà, il sera terminé. Puis on aura des experts en plateau hein, pour en parler autour de la table. Bah, écoutez, il est 20h53. On va terminer l'émission en vous présentant notamment. Le grand événement de cette année de Génération Sport. Alors, il y aura pas mal de choses pendant l'été, mais il y a surtout, j'ai envie de dire, le main event, évidemment, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et à l'occasion, Génération Sport organise donc la grande soirée des Jeux. On vous retrouvera à l'antenne, donc, comme d'hab, tous les mardis de 20h à 21h. Et puis, pendant les 3 samedis des Jeux Olympiques, également donc de 19h à 21h, donc ça nous donne 3 heures de direct par semaine pour suivre les Jeux Olympiques ensemble sur Radio G. Donc évidemment, on compte sur vous pour répondre présent, ça fait plusieurs mois qu'on travaille un peu dessus. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y aura dans ces émissions? Il y aura pas que du direct, on suivra notamment les épreuves en direct, les médailles qu'il pourrait y avoir, etc. Mais il y aura aussi donc des chroniques, des débats, et on essaiera de recevoir le plus de monde lié aux Jeux Olympiques, mais pas que aussi. On va essayer de, comme d'habitude, faire vivre le territoire sportif angevin en recevant des clubs locaux le plus possible, notamment au niveau du rugby. Je sais, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, le 27 juillet, il y aura cette finale pendant l'émission, cette finale du rugby à 7. Et donc,
potentiellement
à avoir confirmation,
mais voilà, ça dépend de la reprise de la saison, des choses comme ça. Je sais qu'il y a certains joueurs qui vont aller voir justement ce tournoi olympique. Donc,
c'est ça. Donc peut-être un intervenant du Sco Rugby, pour vous donner un petit peu un exemple, et qui viendra consultant le temps du match. Et on verra encore qui va commenter. Mais voilà, l'idée, même s'il n'y aura pas de consultant, c'est de commenter ce qu'on voit en direct, les gros événements qui se passeront pendant l'émission. Alors le mardi, ce sera généralement un peu plus calme, mais le samedi, il reste
le mardi, je pense qu'on va rester un peu sur ce format-là, comme on fait tous les mardis.
Donc ouais, ça, après, forcément, il peut toujours se passer des choses.
Sera un petit peu mis de côté pendant cette période-là. On sera axé beaucoup plus sur les résultats des JO. Mais c'est vrai que le samedi, ce sera vraiment la fête du sport, quelle que soit la discipline. On va essayer de couvrir un maximum de choses. Donc c'est pour ça, même si il y a pas d'épreuve dans votre discipline et que votre club serait intéressé pour venir simplement présenter le sport.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Faut pas hésiter, hein, je pense.
Oui, s'il y a des clubs qui nous écoutent,
la nage synchronisée, pourquoi pas le club d'escrime, enfin voilà,
s'il y a des clubs qui veulent nous contacter, alors allez sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram. Voilà, vous pouvez venir, on vous invite à intervenir dans l'émission de
ou même envoyer un mail simplement à la radio, ça nous sera transmis.
Donc voilà, ça va être très très intéressant. Donc je le disais, principalement donc une structure d'émission assez classique, un conducteur assez classique, chronique, débat et interview, hein, notamment justement ce premier samedi, on reviendra notamment sur la cérémonie d'ouverture de la veille. Et puis pendant l'émission, on aura des fils rouges pour suivre avec vous donc les différents événements des Jeux Olympiques. Voilà, s'il y a des médailles pendant l'émission, s'il y a des événements marquants, on reviendra dessus. On aura peut-être quelques moments commentés par Florian, par Mathéo, par Faustin. Enfin voilà, ça peut tourner, mais voilà. Voilà, on aura plusieurs écrans, on essaiera de vous faire vivre ça au maximum. Ça va être quelque chose d'assez important.
On aura peut-être même, on ne sait pas, mais on sait qu'il sera sur place.
Voilà, Clément sera sur place. Voilà. On aura peut-être aussi un bénévole qu'on aura par téléphone pour nous raconter un petit peu les jeux de l'intérieur. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas. Allez écouter. Donc, je rappelle les dates. Samedi 27 juillet, 19h, 21h. Mardi 30 juillet, 20h, 21h. Samedi 3 août, 19h, 21h. Mardi 6 août, 20h, 21h. Et enfin, le samedi 10 août, 19h, 21h. Et après, on continue tout l'été avec Génération Sport.
Et puis, on continuera de traiter quand même les JO.
Si on sera sur un changement.
Voilà, on sera plus sur la reprise de la grille. Classique.
Un changement de saison, mais voilà, en tout cas, il y aura tout ça, et puis à la fin de l'été, peut-être une petite surprise qui concernera également Génération Sport et l'émission sportive de Radio G, j'en dis pas plus pour le moment. Le rendez-vous est pris, le samedi 27 juillet à 19h, 21h, on compte sur vous pour nous écouter et nous apporter pas mal de soutien, ça va être très important. On sera tous là, donc sauf Clément qui sera directement à Paris pour les épreuves, mais voilà, on sera tous au rendez-vous de cette grande soirée des Jeux qu'on organise avec Radio G.
Qui pourra nous faire un point sur la qualité de la scène.
Exactement. Je ne sais pas s'il se baignera dedans, mais on aura le temps de voir ça. On va vous laisser avec la suite des programmes sur Radio G pour ceux qui évidemment suivent le football avec ce France-Espagne. On vous dit à la semaine prochaine. Cédric, tu seras là, toi ?
À voir, ça va dépendre du planning.
Très bien. Bah moi, je ne serai pas là, mais il y aura sûrement les gars qui seront là pour prendre le relais. On vous laisse donc avec la suite des programmes sur Radio G. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport.
Le jour où on m'a dit, va falloir faire tout ça.